Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Rachid Temal, sénateur socialiste du Val d'Oise, président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Rachid Temal, vous étiez présent il y a quelques jours en Algérie. On va évoquer cette visite dans un instant. Mais pour commencer, quel message souhaitez-vous adresser aux Algériens en ce 5 juillet 2022, jour du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie ?
D'abord, je souhaite dire au peuple algérien toute mon amitié et lui souhaiter une bonne fête nationale. Et qu'après ces 60 années, premières années d'indépendance, qu'il puisse avoir effectivement un avenir radieux. Et je crois que la jeunesse algérienne est la chance de l'Algérie.
Alors, vous vous êtes rendu en Algérie en qualité de président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat. Vous avez assisté notamment à la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Oran. Vous avez également rencontré vos homologues parlementaires algériens. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de cette visite ?
Évidemment, d'abord, je pense que c'était important qu'on puisse avoir cet échange entre l'Algérie et la France, qui ont bien sûr un passé commun, mais je crois aussi un avenir commun. Et je crois que la France a une place particulière en Europe, l'Algérie une place particulière en Afrique. Je crois que l'Algérie et la France peuvent être un lien pour les deux continents, mais aussi pour la stabilité autour de la Méditerranée. Je vous rappelle, c'est assez peu connu, que l'Algérie a été un temps membre de la communauté économique européenne à la création, donc après son indépendance pendant quelques années. Mais je crois que le message qui est important, des deux côtés en tout cas, de la délégation que je présidais, c'est d'avoir un échange avec effectivement la commission des affaires étrangères du Conseil de la Nation, ainsi que de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale en Algérie, les présidents des groupes d'amitié France-Algérie, pour à chaque fois échanger sur un certain nombre de grandes questions, de sujets, notamment, je crois que je l'ai dit, sur la question de la jeunesse. Je crois que la jeunesse des deux rives de la Méditerranée, on a besoin, on a intérêt à justement à les rapprocher, à les faire travailler ensemble, avoir plus de relations entre les deux jeunesses qui sont déjà connectées par ailleurs. Il y a aussi des sujets qui me semblent importants comme la question de la souveraineté alimentaire, mais aussi énergétique, des deux côtés de la Méditerranée. Et puis, il y a des éléments, bien sûr, économiques, culturels, et je ne mets pas de côté, puisque c'est un sujet aussi important, sur les questions de sécurité. Je crois que à la fois des sécurités sur la question du terrorisme, je crois aussi, mais globalement... on peut dire sur la question du Sahel, et donc la question du G5 Sahel et de l'avenir. Donc on voit bien que, bien sûr, aussi des conséquences sur les différents conflits de par le monde. Je crois qu'il est important de faire un tour d'horizon entre deux pays. Chacun des deux pays a sa diplomatie, chacun a des intérêts particuliers, mais on voit bien que sur des sujets fondamentaux, je l'ai dit, sur la stabilité, sur la nécessité de développer le bien-être des populations, etc., il y a des points de convergence entre les deux pays, et je crois qu'il est toujours important de les renforcer sans mettre sous le tapis des points de divergence, des débats. J'ai eu l'occasion notamment de revenir sur le rapport de Benjamin Mastora pour indiquer que la France notamment avait, à l'initiative d'Emmanuel Macron, avait porté ce débat-là, et que la partie algérienne devait le faire à l'époque, et ce n'est pas le cas. On a même échangé sur la proposition de loi que j'ai déposée sur l'initiative 61. Donc il y a des travaux qui sont faits, et il faut à chaque fois se le dire. Et quand vous êtes amis, quasiment de la même famille, il faut avoir le courage de se dire les choses calmement, dans le blanc des yeux, dans le respect et avec l'égalité entre deux nations libres et indépendantes.
Alors l'Algérie va pouvoir aider l'Europe et notamment la France à s'approvisionner en énergie dans le contexte de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie, d'autant plus qu'un nouveau champ gazier vient d'être découvert. Avec la nouvelle donne géopolitique et son rôle de puissance gazière, vous avez le sentiment que l'Algérie va être amenée à jouer un rôle plus grand sur la scène internationale ?
Oui, je le crois, mais d'ailleurs j'ai envie de dire de retrouver peut-être un statut qu'elle a pendant quelques années un peu perdu sur une puissance sur la scène internationale. Effectivement, je crois que sur la question que j'évoquais tout à l'heure de la souveraineté alimentaire et énergétique, on voit que les deux pays ont des choses à faire. Nous avons une capacité d'exportation conséquente sur, j'ai envie de dire, les questions alimentaires, et qui, je crois, est nécessaire aussi pour l'Algérie. Et l'Algérie a une capacité d'exportation énergétique qui nous est utile. Vous voyez, à un moment donné, il faut se parler, il faut tirer les points positifs des uns et des autres, et faire en sorte que ces deux nations travaillent ensemble. Donc sur la question du gaz, la question des énergies en général, oui, l'Algérie a besoin aussi de développer ses capacités, parce que nous avons besoin en Europe notamment, nous avons besoin de ses capacités énergétiques.
Après une grave crise diplomatique, la France et l'Algérie s'efforcent depuis plusieurs mois déjà de donner un nouvel élan à leurs relations. Est-ce que vous souhaitez que les deux chefs d'État se rendent mutuellement en visite? On a tous en mémoire la visite de Jacques Chirac en Algérie.
Alors moi, je suis d'abord rappelé que au Sénat, nous sommes très attachés à la diplomatie parlementaire. Parce que parfois, quand il y a quelques discussions entre les deux États, alors les parlementaires peuvent se parler. Nous ne sommes pas ni les uns ni les autres dans l'exécutif, et je crois que notre rôle est de mettre de l'huile sur les dans les rouages, d'entretenir des relations qui nous permettent de, quand ça va bien, de faciliter les choses, mais quand ça va moins bien, là aussi de les faciliter. Donc je crois que c'était assez important. C'est d'ailleurs une volonté forte de Gérard Larcher, et c'est pour ça que moi j'étais en Algérie dans ce cadre-là. Après, vous savez, moi j'ai un rêve qui peut paraître, mais comme tout rêve, illusoire, mais il faut avoir des rêves pour parfois arriver à une réalité. La France et l'Allemagne ont connu trois guerres en un siècle. Je ne veux pas revenir sur les trois guerres, c'est pas le moment. Mais elles ont su, les deux pays, enfin les deux nations, ont su justement se rapprocher et ont fait le traité de l'Élysée. Ce traité a beaucoup joué d'ailleurs dans les relations entre deux pays, mais également dans la construction de l'Union européenne. Moi, je rêve d'un traité, alors soit à l'Élysée, soit à la présidence algérienne, mais d'un traité entre les deux peuples, entre les deux nations. C'est un peu mon rêve. Et donc, effectivement, les visites mutuelles du président Macron en Algérie et du président algérien en France me semblent être nécessaires. Moi, à chaque fois qu'il y aura des rencontres officielles, je pense que ce sera plus. Vous avez cité la visite de Jacques Chirac. Ça a joué un rôle. Celle aussi, on peut citer celle de François Mitterrand, également à Alger. Donc, voilà, il y a besoin, à chaque fois, on sait très bien que la diplomatie, c'est aussi des relations interpersonnelles. Je crois que les deux présidents ont, des deux côtés de la Méditerranée, une qualité, c'est de dire les choses. Je crois qu'ils se parlent, les deux présidents, et je pense qu'il est important aussi d'assumer. On pourra imaginer, par exemple, pourquoi pas, un jour avoir comme invité au 14 juillet le président algérien et puis le président français, pourquoi pas une cérémonie de cette envergure-là ou autre en Algérie. Donc, les différentes formules sont sur la table. Je crois qu'il faut maintenant y travailler. Et des deux côtés, j'appelle les deux côtés, parce qu'il y a toujours des gens qui voient ça d'un mauvais oeil, j'appelle à dépasser l'histoire, même si encore une fois l'histoire est essentielle, il faut la regarder dans le droit des yeux. La France est un grand pays avec une histoire, des pages glorieuses, des pages moins glorieuses. Tout ça existe, donc là il y a un travail d'historien. Il ne s'agit pas de mettre ça de côté, mais il s'agit de dire, laissons travailler les historiens et construisons, je parle là, quand je dis construisons, je parle des élus, alors construisons l'avenir des deux peuples, parce que je crois que quand vous connaissez le peuple algérien et le peuple français, je crois qu'il y a un respect, et je crois qu'il y a une capacité à imaginer ensemble l'avenir.
Lors de l'installation des nouveaux députés français, le doyen José González, qui est un élu du RN, a évoqué sa nostalgie de l'Algérie française. Interrogé ensuite par la presse, il a déclaré ne pas savoir si l'OAS avait ou non commis des crimes en Algérie. Rachid Temal, que vous inspirent ces déclarations faites au sein de l'Assemblée nationale à quelques jours de ce 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, anniversaire qui a lieu aujourd'hui?
Mais je, encore une fois, faisons attention à ne pas prendre un propos et d'en faire une généralité. Cette personne n'est pas est seule à dire cela. Il n'y a pas aujourd'hui en France de mouvement, de mouvement d'opinion en faveur de l'OAS ou de l'Algérie française. Moi, je respecte totalement celles et ceux qui sont nés, qui ont grandi, qui ont vécu en Algérie, et pour les raisons de l'histoire, suite à une guerre, en sont partis. Aussi bien d'ailleurs les Français d'Algérie, que je respecte également la mémoire des militaires français, celle des combattants, les harkis, comme celle des Algériens qui ont combattu pour leur liberté. Je crois qu'il faut respecter les mémoires. Après, une fois que vous avez dit ça, il y a des propos dont il faut être clair. L'OAS, l'Organisation Armée Secrète, a effectivement été une organisation terroriste qui a tué, en Algérie, mais pas seulement en Algérie, a tué des civils. Et d'ailleurs, l'OAS a même voulu tuer le chef d'État français, en espèce à l'époque, Charles de Gaulle. C'est-à-dire, ça, c'est un fait reconnu et pas contestable. Donc, je crois que ce député aurait mieux fait de se taire. Mais encore une fois, je ne souhaite pas que cette prise de parole-là, isolée dans la société française, soit de nouveau l'occasion de réouvrir des débats qui, je crois, sont tranchés. Et encore une fois, une minorité, une infime minorité que représente ce monsieur n'est pas la position de la France.
Rachid Temal, lors des votes internes à l'Assemblée nationale, on a vu deux vice-présidences accordées à des élus du RN grâce à des voix d'élus, semble-t-il, de la majorité présidentielle ou de droite. Le vote était à bulletin secret. C'est une première sous la Ve République. Pour vous, c'est une banalisation de l'extrême droite ?
Non, je crois qu'on, d'abord, vous avez raison de rappeler que la gauche, elle, n'a pas voté pour les candidats d'extrême droite. C'est important de le rappeler. Deux, il y a aujourd'hui une victoire idéologique culturelle de l'extrême droite. Je vous rappelle qu'entre les deux présidentielles 2017-2022, ou les deux législatives 2017-2022, l'extrême droite prend entre 2,3 à 2,9 millions de voix supplémentaires. Et il y a aujourd'hui, effectivement, avec des sièges de vice-président de l'Assemblée nationale, une forme de normalisation. Et il y a effectivement un danger en France de prise de pouvoir par l'extrême droite en 2027. Alors, donc moi, mon combat va être effectivement comme d'autres. Moi, dans mes engagements de toujours, il y a le combat contre l'extrême droite et c'est un combat qu'il faut mener. Donc il faut démonter, mais c'est un combat politique, démonter que leurs propos, ce qu'ils portent, qu'il est néfaste, il faut proposer face à cela un autre projet de société. Et l'enjeu pour les socialistes, c'est justement de proposer une vision du monde, une vision de la France pour nos compatriotes. Donc c'est un combat projet contre projet, vision contre vision.
Rachid Temal, la NUPES a permis à la gauche de se renforcer à l'Assemblée nationale lors des dernières législatives. Pour autant, cela s'est fait au prix de concessions de la part de votre parti, le Parti Socialiste, vis-à-vis de la France Insoumise. Est-ce que cet accord électoral et programmatique doit se poursuivre dans le temps, durant les 5 ans qui viennent? Est-ce qu'il y a un risque pour le PS d'être finalement à la remorque de la France Insoumise?
Faisons les choses simples, vous connaissez ma position sur cet accord, je n'étais pas favorable, je suis favorable à l'Union de la Gauche. Mais parce que l'Union de la Gauche nous permet, ça a été le cas, de passer le premier tour. Je rappelle qu'il y a des conditions pour aller au second tour. Mais comme je l'ai dit à l'époque, quand la fusée a le moteur du mélenchonisme, alors elle décolle, mais elle ne va pas jusqu'au bout de sa trajectoire. Et je crois que la différence, c'est qu'au second tour, il faut élargir pour faire 50% plus une voix. Donc l'enjeu qui est celui, je crois, de la gauche, en tout cas des socialistes, c'est d'avoir l'union de la gauche, mais avec un barista, permettez-moi l'expression, qui serait plutôt dans la famille socialiste, parce que je crois qu'il a capacité à rassembler plus largement. On l'a vu d'ailleurs dans les seconds tours où les socialistes ont mieux gagné que notamment LFI. Donc je crois que l'enjeu pour les socialistes aujourd'hui, c'est effectivement de reconstruire une vision, parce que c'est ce qui manque, je veux dire. Le débat de 2017 ou le débat de 2022, c'est que les socialistes n'ont à cœur de proposer une vision de la société, et non plus à convaincre sur ça. Et je crois que c'est le travail que nous allons mener. Moi, c'est le travail que je vais mener, travailler sur le fond, écouter, échanger avec les Français, avec les corps constitués. Il faut retrouver ce débat-là. Mais encore une fois, l'union de la gauche, oui, mais les élections nous ont montré que quand elle est dirigée par Jean-Luc Mélenchon, alors elle ne gagne pas. Et vous savez, une gauche de témoignage, ça veut dire quoi concrètement? Parce que c'est pas une concurrence ou un problème d'ego. Quand la gauche ne fait que témoigner, alors la droite dirige ce pays et les Français payent l'addition. Moi, ce que je souhaite, c'est une gauche qui dirige le pays. Donc il faut se salir les mains, il faut assumer le pouvoir. Et donc il faut rassembler avant. Et donc c'est ça qui est débat dans nous, parce que si vous gagnez, alors vous changez la vie des Français. Puisqu'aujourd'hui, vous voyez bien, on annonçait dans les sondages 230 élus NUPES, aujourd'hui on est à 140. Donc, il manque. Donc il y a ce travail-là à mener, et je crois qu'on doit le faire sans anathème, sans cri, sans claquement de porte, mais je crois que le partialiste a un rôle à jouer, et il doit jouer pleinement ce rôle, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il travaille sur une vision de société. Nous avons des vraies différences. Moi, par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon dit la police tue, je condamne ce propos-là, parce que le service public de la police, il est utile, et dans les quartiers, il faut entendre, et les Français, et ils sont légitimes, c'est dans les quartiers que les Français payent le plus lourd tribut de la sécurité. Ils veulent une sécurité, ils veulent de la police. Après, à la police est totalement républicaine, Et à chaque fois qu'il y aura un manquement, problème, alors il faut sanction. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et comme de faire inviter M. Corbyn, qui a été exclu du Parti travailliste pour le moins d'ambiguïté sur la question de l'antisémitisme, ce n'est pas acceptable. Je pourrais qu'on puisse apprendre autre chose. Donc, oui à la gauche, mais pas au prix d'un populisme de gauche. Je ne crois pas que le populisme de gauche te fasse gagner les élections.
Ce mercredi, la Première ministre va prononcer son discours de politique générale. Est-ce que le Parti socialiste participera à la majorité d'actions voulues par le gouvernement ?
Mais je pense que c'est un débat que je ne comprends pas. Les Français, il faut savoir que la situation, quelle est-elle aujourd'hui ? Vous avez à la fois une légitimité du président de la République issue du scrutin présidentiel, et vous avez une légitimité du Parlement, issue notamment pour l'Assemblée, mais aussi le Sénat, pour l'Assemblée, du scrutin du 19 juin d'année. Les deux légitimités sont incontestables et sont complémentaires. Les Français ont décidé d'avoir une chambre sans majorité absolue, une majorité relative. Les choses sont simples. Il revient en France, dans notre institution, au gouvernement de faire des projets de loi. C'est son rôle, qu'il fasse des projets de loi, qu'il les dépose sur le bureau d'Assemblée, au Sénat et à l'Assemblée. Qu'est-ce qui se passera, nous, députés ? Alors nous ferons notre boulot, qui est simple, qui est reconnu. Nous ferons des amendements. Nous proposerons, au travers d'amendements, des propositions complémentaires, etc. Si le gouvernement entend cela, et que sur tel ou tel texte, il entend les amendements de l'opposition de gauche, alors nous pourrons voter. S'il ne les entend pas, alors nous ne pourrons pas voter. Nous, notre boussole, socialiste notamment, c'est l'intérêt des Français. Donc il n'est pas question d'être dans une quelconque majorité, puisque nous avons été élus en opposition avec le projet du gouvernement, soyons honnêtes. Mais les Français nous ont obligés maintenant à travailler dans leur intérêt. Alors c'est ce que nous ferons. Donc les choses sont simples. Il revient au gouvernement de déposer des textes et d'entendre la voix du Parlement. C'est vrai que ça change. Chacun doit évoluer. Et donc l'idée, c'est pas de piéger l'opposition ou pas piéger l'opposition, ce qui essaie faire un peu le macronisme. Non. Prenons un exemple concret. Le Parlement va lui soumettre un texte sur le pouvoir d'achat. Il y aura des propositions. Nous, nous vous dirons si tout est bien, tant mieux. S'il manque des choses, si on veut faire mieux, nous proposons des choses. Et nous verrons quelle est l'attitude du gouvernement. Si le gouvernement et sa majorité relative à l'Assemblée, et si nous avons le même cas au Sénat avec la droite, si nous, à chaque fois les amendements sont repris, nous verrons ce que nous ferons à ce moment-là. Et donc, moi, je ne m'interdis pas de voter un texte si les amendements permettent d'avoir du grain à moudre. Mais je ne voterai pas des textes s'il n'y a pas d'avancée pour les Français. Vous voyez, le parlementaire, c'est ça. C'est vous devez travailler dans le sens des Français avec des amendements. Donc je crois qu'il revient aujourd'hui surtout au gouvernement de comprendre que le temps où il déposait un texte, moi je l'ai vécu dans le dernier quinquennat, il y a le vécu, où on avait le droit de mettre aucun amendement qui était repris par le gouvernement, c'est vrai que là, ça paraît pas de... Maintenant, il faut changer. Donc c'est au gouvernement de changer. Donc je crois qu'il ne faut pas être dans le débat dans une majorité ou pas une majorité. Il y aura un travail texte par texte, et il revient maintenant au gouvernement de faire des propositions concrètes, et surtout de changer son état d'esprit, et d'entendre que le Parlement a joué un rôle important à jouer dans la démocratie française.
Merci Rachid Temal. Je rappelle que vous êtes sénateur socialiste du Val d'Oise et président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat. Bonsoir.
Merci à vous, au revoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.